et France 24 présente. Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports hebdomadaire sur RFI, la Radio Mondiale et sur Facebook. Facebook Live à travers Internet et évidemment aussi sur France 24, télévision internationale. Aujourd'hui, nos invités sont là, ils sont toujours fidèles au rendez-vous et ça met du piment dans notre Café des Sports. Bonjour Xavier Barré.
Bonjour Annie, magnifique ce toucan qui met de la lumière et de la joie dans notre studio.
C'est un oiseau brésilien, voilà. C'est pour ça. Un petit clin d'œil. Bonjour Rémi Ngono.
Bonjour Annie, je suis toujours en poste et surtout je continue à fêter la 14e Ligue des Champions. Et j'espère que j'irai en vacances. Avec Xavier Barré en Catalogne.
C'est pas gagné.
Bonjour Frédéric Suto.
Bonjour Annie, bonjour Rémi, bonjour Xavier, bonjour
Salut.
À tous.
Vous êtes là, attentifs toujours aux messages de ceux qui nous suivent, qui ont quelques commentaires à donner ou à formuler durant cette émission. Alors, dans les débats du jour, eh bien, nous commencerons par Zizou. Zizou au PSG, c'est évidemment la grande ombre au-dessus du Parc des Princes et les rumeurs se multiplient. Elle génère aussi des démentis. Qui croire ? Nous, on va surtout se demander pourquoi Zinedine Zidane serait l'entraîneur idéal pour diriger l'équipe parisienne. Et s'il faisait ce choix, ne provoquerait-il pas des larmes à Marseille et à Madrid ? L'éternel lion indomptable Samuel Eto'o sort ses griffes. Le patron de la FECAFOOT tense les joueurs dans le vestiaire malgré leur victoire et en Tanzanie. Et il exige un engagement total. Un hyper-président peut-il gêner le sélectionneur ? Une numérotation illimitée ou presque. Désormais, la Ligue 1 autorisera sur les maillots des numéros allant de 1 à 99. Fini ces chiffres rattachés à un poste défini, comme en Italie, comme en Angleterre, à l'américaine, quoi. Au générique de cette émission, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin. Laurent Salerno est à la réalisation, ainsi que Souel Kedir et Léo Bernard. Le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Faut jamais dire jamais, je m'interdis rien.
Pas ça, Zinedine. Non. Oh non.
C'est les opportunités qui feront le reste.
Oh non, pas ça.
La prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG a lancé une réorganisation, vous le savez, au sein du club de Paris, dont les effets commencent à apparaître et à être concrets. Ainsi, par exemple, aujourd'hui, nous avons eu un communiqué du club parisien. C'était à la mi-journée qui nous apprend, plutôt qui nous confirme que le portugais, Luis Campos est désormais parisien. Il sera conseiller football au sein du club. Rien sur Leonardo qui, pourtant, lui a officiellement été congédié hier. Quant à l'effectif, eh bien, le mercato n'est pas encore ouvert, donc évidemment, il y a beaucoup de rumeurs. Mais pour l'entraîneur, c'est pareil. C'est pareil dans le sens que pour l'instant, il y a toujours Mauricio Pochettino qui est là, il a un contrat, donc il est toujours en poste. Mais, bien sûr, les rumeurs circulent. On vous a parlé de Christophe Galtier, vous en avez sans doute entendu parler. Mais la rumeur du jour, c'est celle de Zinedine Zidane. Alors nous, on en a déjà parlé hier dans l'émission, mais aujourd'hui, on a su par nos amis de Europe 1 que, apparemment, il signerait et dans les prochaines heures, et nos confrères d'RMC aussi seraient sur cette piste. C'est vrai qu'on a beaucoup vu Zinedine Zidane circuler ces derniers jours à Paris. L'un de ses proches, il faut le préciser, a démenti aujourd'hui. Il dit qu'il n'y a rien fait, mais on imagine que jusqu'à la signature, on ne saura pas grand-chose. En tout cas, il y aura des rumeurs ces prochains jours. Et nous, on a décidé de se poser la question. Si cela fait rêver les supporters parisiens, bien sûr, et même le président Macron, vous l'avez entendu hier s'exprimer sur le sujet, Zidane serait-il l'entraîneur idéal au Paris Saint-Germain? Xavier Barré, à vous la balle.
Quand vous avez un effectif aussi riche de fortes personnalités et de grands talents, pour les entraîner, il faut quelqu'un qui leur en impose par sa stature, sa personnalité et ce qu'il est. Or, on l'a vu encore récemment dans certains clubs, notamment à Chelsea. Souvenez-vous quand un jour, Eden Hazard avait envoyé bouler José Mourinho en lui disant « Et toi, qu'est-ce que tu as fait de ta carrière de joueur ?» puisqu'il n'en a pas eu. Là, même si vous êtes Messi, même si vous êtes Neymar, vous ne pouvez pas dire ça à Zidane, puisqu'il a gagné la Coupe du Monde, ce que n'a pas fait Messi, ce que n'a pas fait Neymar. Il a eu le Ballon d'Or, ce que n'a pas encore fait Mbappé. Il a gagné aussi l'Euro. Bref, il a tout gagné. Il a également gagné la Ligue des Champions. Il a été aussi en finale avant de la gagner. Donc, il coche toutes les cases. Toutes les cases qui fait qu'un grand joueur, aussi grand soit-il, il ne peut pas lui dire « Et toi, qu'est-ce que tu as fait de plus que moi ?» Il ne peut pas. Donc forcément, déjà ça en impose à tous les joueurs de l'effectif. Donc à partir de ce moment-là, vous avez une autorité naturelle spontanée qu'il a montré d'ailleurs au Real Madrid.
Au Real Madrid, qui est avec un club, Cristiano Ronaldo et toutes les autres
stars. Exactement, qui est un club difficile
sûr.
À entraîner parce qu'il y a effectivement beaucoup de très grands joueurs et de fortes personnalités. Donc à Paris, oui, c'est le profil idéal. Je serais peut-être tenté de dire que c'est presque le seul profil qui est actuellement sur le marché. Dans les années 90, il y avait Cruyff, Beckenbauer, qui avait effectivement ses références en tant que joueur qui faisait qu'il pouvait en imposer à des joueurs qui à l'époque étaient d'ailleurs moins exigeants ou moins starifiés encore qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez pratiquement que Zidane qui présente toutes ces capacités.
Et qui est sur le marché, comme vous dites, c'est-à-dire qu'il n'a pas de club, qu'il n'a pas de sélection. Rémi, est-ce que pour vous, ça serait aussi, alors pas le gendre idéal, mais l'entraîneur idéal chez les Parisiens ?
Quel entraîneur
pourrait
être ?
Parce qu'on sait que c'est un siège éjectable quand même dans ce club. On a vu beaucoup de grands ou de bons entraîneurs se casser les dents.
C'est ce que je suis en train de vouloir d'ailleurs contre-attaquer sur les propos de Xavier Barré, qui dit, bon là, on a dit peut-être que c'est si à José Mourinho parce qu'il n'avait pas gagné grand-chose, mais je vais lui dire, il y a eu des entraîneurs qui ont été contestés, la plupart d'ailleurs, qui ont fait une excellente carrière. Vous connaissez Diego Maradona, il n'a jamais fait l'unanimité, alors qu'il avait aussi bien remporté des trophées. Donc, à partir de là, vous ne pouvez pas dire que c'est parce que celui-ci a remporté et qu'il avait une forte personnalité. D'ailleurs, Michel Platini a échoué dans le domaine du coaching. Alors
il n'a
peut-être
pas eu envie de poursuivre non
bon,
plus.
Il a échoué, il n'a pas eu grand-chose. Mais ce qui est surtout, pour moi, un bon entraîneur. Pour qu'un entraîneur aille dans une maison, il faut qu'il y ait une bonne institution. Au Real Madrid, Zinedine Zidane avait déjà la chance de faire partie de la maison. Au Real Madrid, Zinedine Zidane était déjà considéré comme celui par tous les moyens qui devaient être jardinés et réussir dans la mesure où, en 2013, on le met d'abord comme adjoint d'Ancelotti.
Oui, puis il était chez les jeunes.
Par la suite, il était chez les jeunes avant de monter. Or, le Paris Saint-Germain, c'est autre chose. On a quand même vu des grands entraîneurs, lorsqu'on voit par exemple Carlo Ancelotti, il ne s'est pas imposé. On va me parler par exemple de la personnalité. On sait que Thomas Tuchel, lui également, il est passé quelque part là. Malgré tout ce qu'il a voulu imposer, il n'a pas pu s'imposer parce qu'au niveau du Paris Saint-Germain, parfois les décisions viennent très loin du Qatar, bifurquent à gauche avant de revenir à droite. Pour moi, on ne juge pas, le dit un proverbe africain, on ne juge pas le cheval par la selle.
C'est la raison pour laquelle il y a, parallèlement à l'arrivée probable de Zinedine Zidane sur le banc, il y a une restructuration du club. Parce qu'effectivement, au Real Madrid, comment ça se passait ?
Mais il y en a
le
qui,
président
qui
Florentino
pense
Pérez,
que Luis Campos,
l'entraîneur.
Sa première charge serait de choisir un entraîneur. Or là, il serait choisi au Qatar.
C'est ce qu'on a dit, à part que Luis Campos, déjà, il n'arrive pas comme directeur sportif, mais comme conseiller sportif.
Oui, vous
savez
non,
mais
très
c'est une
nuance
importante.
Oui.
C'est une nuance importante.
Parce qu'il va pouvoir continuer à avoir sa société.
Oui, mais non, mais aussi parce que le directeur sportif au Paris Saint-Germain, et notamment Leonardo, qui a aussi une forte personnalité, il faisait de l'ombre à l'entraîneur. Et d'ailleurs, quand il est arrivé, la première chose qu'il a faite, ça a été de virer Comboiré la première fois. Et la deuxième fois, ça a été de virer Tuchel pour mettre un entraîneur à lui, voilà, qui n'a pas forcément mieux réussi. Alors Ancelotti, il est parti avant parce qu'il voulait préférer aller au Real Madrid. Et Tuchel, il est parti gagner la Ligue des Champions avec Chelsea. Donc déjà, on éjecte Leonardo pour laisser plus d'espace à Zidane. Donc à partir de ce moment-là, on va voir...
Et on présente Luis Campos comme quelqu'un aussi capable que Leonardo.
À part que la structure du Paris Saint-Germain est ainsi faite que quand vous recrutez Neymar ou Messi, vous n'avez pas besoin de Luis Campos. C'est l'émir qui se débrouille.
Ni pour faire rester Kylian.
Voilà. Même s'il était un peu là comme conseiller. En revanche, quand vous avez besoin d'aller regarder des jeunes, vous ne pouvez pas demander à l'entraîneur du PSG qui a assez à faire toute la semaine avec ses stars d'aller s'occuper des jeunes et des prospects. Donc là, Luis Campos, il va être parfaitement utile.
Frédéric, est-ce que, je ne sais pas, ça fait réagir
ça fait énormément réagir depuis le début de l'émission. Alors, la plupart des auditeurs, des téléspectateurs, ils en rêvent hein, de voir Zizou au Parc des Princes. Zidane au PSG, c'est une bonne nouvelle, à condition qu'il puisse avoir les mains libres, nous dit Chavili et Langa Ozang. Vous avez Ndiako, Aimé, Gnanoré. Zizou a la recette pour gagner la C1. Il nous rappelle effectivement tous ses succès avec le Real Madrid. Zizou va bel et bien signer au PSG. C'est Benliman Boukhar qui nous dit ça. Bon, il a l'air très bien informé. Jonathan, il a Bangui, lui, Jonathan Haas. La révolution parisienne qui est en téléchargement. Le téléchargement, ils aiment bien cette expression, les auditeurs.
Quelque chose de beau aussi pour la Ligue 1. Kylian Mbappé reste et en plus Zidane arriverait.
L'ancien meilleur joueur du monde, Frédéric. Celui qui a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Ils ont un peu tout essayé. Hein, les dirigeants du PSG depuis 10 ans ont rappelé, Rémi, la liste des entraîneurs, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel,
Mauricio
Pochettino. Mais pour lui, il a cette aura, il prend des risques, finalement, venant à Paris.
Une autre indiscrétion qui est sortie, c'est le salaire qu'aurait Zidane.
Il vient pour l'argent, alors
Ça a été détourné comme ça par certains internautes marseillais, mais 25 millions d'euros par saison. Mais c'est très important. Moi, je me souviens de ce que disait Giroud à l'époque, mais aussi Alex Ferguson à Manchester United, donc sur deux planètes un peu différentes. Il faut que l'entraîneur soit payé plus que le joueur le mieux payé, parce que ça impose aussi naturellement son autorité dans le vestiaire.
Ouais, on sait que pour le Qatar. Pour ça,
ça renforce. Mais parce que parfois, vous en avez qui vont balancer, mais toi, de toute façon, combien tu gagnes ? Je suis plus payé que toi.
Xavier,
donc c'est ça ne marche plus.
Mais alors, 25 millions, il sera payé plus que Kylian Mbappé ?
Non, peut-être pas plus que Kylian Mbappé, parce qu'il y a les droits d'image, etc.
Est-ce que
les contrats de sponsoring.
C'est une histoire d'argent ?
Non.
Pourquoi il réussirait mieux, lui ? Est-ce que c'est une histoire d'argent, alors ?
Non, c'est une histoire d'autorité. Une histoire d'autorité naturelle
Il n'a que 49 ans.
Dans 10 ans, 15 ans, son palmarès de joueur, tout ça, on l'aura peut-être un peu oublié. Mais c'est vrai que les joueurs qu'il aura sous la main, là, quand ils étaient gamins, ils regardaient Zidane jouer et gagner la Ligue des Champions avec le Real. Donc, ils ont encore cette image en tête. Et c'est ce qui a fonctionné, je pense, avec Ronaldo et toute cette génération.
Absolument, ce qui fonctionne.
Contrairement à Kylian Mbappé, c'est pas pour de l'argent. Ça, je peux mettre ma main au feu parce que je sais déjà que Zinedine Zidane, quand il prend le Real Madrid, il est à 2 500 000. C'est-à-dire que l'an. Et il faut voir que d'ailleurs, qu'il est resté l'entraîneur le moins payé du Real Madrid. Puisque d'ailleurs, vous vous souvenez, quand il revient, c'est quand même un Benitez qui était là avec près de 20 millions d'euros. Mais Benitez, malgré ce gros salaire, a eu des résultats catastrophiques. Lopetegui était mieux payé que Zinedine Zidane. Quand Zinedine Zidane s'en va, non seulement il refuse de demander sa dernière année de contrat, mais même quand il revient et il repart, il n'a jamais demandé de l'argent. Donc, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a des valeurs fondamentales qui ne sont pas totalement capitaliste, mais cependant qui impose aussi des choix. Et c'est là où ça risque d'être très dangereux, dans la mesure où, au Real Madrid, il a par exemple décidé de travailler avec un adjoint qui n'avait pas de diplôme, c'est-à-dire que Bettoni. Bettoni avait à peine une licence A qui lui permettait d'entraîner au niveau de la régionale, des régionales. Or, il n'avait même pas le diplôme UEFA Pro qui lui permet qu'il soit sur le banc. Zinedine Zidane avait exigé qu'il y soit. Et finalement, le Real avait cédé parce que je dis bien que Zinedine Zidane avait la main. Et maintenant aussi, vous regardez qu'au niveau de ce qu'on peut appeler la préparation physique, Zinedine Zidane, c'est son premier secret. Et par exemple, vous connaissez qu'il a travaillé avec Pintus. Il avait exigé au Real Madrid de faire un enlèvement à Lyon pour que Pintus, qui avait déjà travaillé
c'est
avec...
C'est sûrement ceux qui restent à négocier.
Justement, oui, ce sera très compliqué à ce niveau quand je regarde le niveau physique des joueurs du Paris Saint-Germain.
C'est peut-être là qu'il faudra travailler.
Et on m'a même dit que sa première discussion aurait été à Ibiza avec Verratti. Et je me souviens justement qu'en 2017, Verratti, justement en mai, on lui parlait déjà des problèmes physiques alors qu'il avait tout simplement 24 ans. Ouais. Aujourd'hui, on me dit que Zinedine Zidane va construire son équipe sur Marco Verratti, j'en doute.
Rémi, si vous dites qu'il ne vient pas pour de l'argent, alors pourquoi il ne va pas à Marseille ?
Il ne va pas à Marseille parce que Marseille n'a pas la politique de recrutement. Et il y a une différence entre un club, parce que justement, j'ai dit, le salaire de Zinedine Zidane, ce n'est pas pour ça qu'il vient. Mais maintenant, la politique du club est une autre chose. C'est-à-dire qu'au niveau du Real Madrid, quand Zinedine Zidane arrive, il y a quand même les Ronaldo, il y a les Benzema. Et d'ailleurs, même le président, mais alors, le président va lui imposer, par exemple, Gareth Bale, de construire autour de Gareth Bale.
Mais pas beaucoup,
il va refuser. Il va dire, moi, je le mets au banc.
Et justement, alors, c'est la question qu'on voulait se poser. Est-ce que ça ne va pas faire pleurer du côté de Marseille et du côté de... du Real Madrid aussi, que Zidane vienne au Paris Saint-Germain s'il y venait.
Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on va accepter perdre sa meilleure épouse.
mais malheureusement,
aujourd'hui, que ce soit du côté...
De toute façon, il l'a fait
que
avec
ce
le
soit
Real,
du côté de Marseille. Il a déjà offert au Real Madrid ce qu'il pouvait offrir. Il a eu à sortir d'abord par la grande porte et puis le deuxième passage a été beaucoup difficultueux. Maintenant, il se rend compte que ça ne sert à rien. Un bon poisson, quand il dit 3 ans, 4 ans au marché, il pourrit. Donc aujourd'hui, il peut bien aller faire recette au niveau de Paris Saint-Germain qui a besoin d'un entraîneur comme lui. Mais il ne peut pas aller à Marseille tout simplement parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « on n'attire pas les mouches avec le vinaigre ». Mais avec du miel.
On le connaît aussi en France. Mais non, mais
Xavier, pourquoi est-ce que ça va faire pleurer du côté de Marseille? Le journal La Provence s'est déjà amusé à tester un peu et les gens sont furax en fait.
Ça fait rager, mais bon, c'est pas la première fois puisque
il y a. Non, mais il y a pas longtemps, il a encore dit quand Marseille a terminé dauphin, il a dit mais je serai toujours Marseillais, c'est mon club.
Oui, ça l'engage pas.
Il est né là-bas, il a passé ses 15 premières années à Marseille.
Mais il n'a jamais joué
à l'OM, il n'a pas été. Il n'a pas été formé à l'OM non plus, puisqu'il est parti à Cannes.
À Cannes, ouais.
Son centre de formation, ça a été à Cannes.
Ensuite, il est allé
au Girondins de Bordeaux. Donc, footballistiquement,
c'est un gamin de Marseille. Voilà, c'est
oui,
ça,
il est né à Marseille. Bon, voilà. Mais son attachement à Marseille, footballistiquement, et c'est zéro. Il n'y a rien.
Puis cette fresque,
il
n'y
a rien. Il
n'a
jamais été. Hein, oui,
qui,
peut-être.
Qui
mais
tout le monde.
Qui avait d'ailleurs été badigeonné par des fadas. Voilà. Bon, bref. Non, mais footballistiquement, il n'a aucune attache à l'OM. Il est attaché à la ville où il est né.
Je suis supporter de l'OM.
Oui, mais il n'y a jamais joué. Il n'y a même pas été formé. Voilà. Donc son attachement. Bah, si, bien sûr, il y en a qui se raccrochent à ça en disant Zidane est Marseillais, le meilleur joueur du monde est né à Marseille. Mais ça ne change rien. Il est toujours né, il restera toujours un natif de Marseille. Maintenant, aujourd'hui, les entraîneurs professionnels, ils vont là où on leur propose des projets. Or, aujourd'hui, le projet de l'OM par rapport à celui du PSG, ils sont complètement différents. Vous avez des côtés un PSG.
Ils seront en Ligue des Champions quand même, hein, Marseille. L'année
oui,
prochaine.
La saison prochaine, mais ils vont essayer déjà de marquer un point.
Mais c'est vrai.
Très méchant.
Mais le PSG aujourd'hui, c'est au niveau du Bayern, du Real, de Manchester City, de Manchester United et des grands clubs européens. Marseille,
donc, il choisit le projet.
Marseille, voilà, il choisit le projet.
C'est très normal. Il ne prend pas beaucoup de risques, finalement. Le PSG, ça fait 10 ans qu'ils n'arrivent pas en Ligue des Champions. Bon, bah, s'ils se font sortir, même avec Zidane, en 8e, en quart, comme d'habitude, au bout de 2-3 ans, il rebondira, il prendra l'équipe de France, qu'on lui promet déjà depuis pas mal de temps. Mais aller à Marseille pour finir peut-être 3e, 4e du championnat et faire de la figuration Ligue des Champions, il est arrivé au Real, il avait tous les joueurs qu'il fallait pour la gagner, la Ligue
Parce
des Champions.
Pour terminer,
c'est ce qu'il veut faire avec Paris.
Pour répondre à ce que disait tout à l'heure Rémy Ngono quand il parlait de Diego Maradona. Diego Maradona, il s'est retrouvé sélectionné à l'équipe d'Argentine par un concours de circonstances. Tandis que Zizou, il voulait vraiment être entraîneur. Il avait déclaré dans des interviews à France Football, il a suivi les cursus de formation
à Limoges.
Il s'est préparé, il a accepté d'être adjoint.
Il n'avait pas la même hygiène de vie non plus. Bien sûr, évidemment.
Mais c'est une volonté de sa part, c'est une vocation. Et donc aujourd'hui, ça fait un an qu'il est en année sabbatique, il tourne en rond. Il a envie de revenir sur le terrain. Il a envie de relever un nouveau défi.
Bien sûr
qu'il pourrait. En plus, il est grand-père depuis peu. Bien sûr qu'il pourrait profiter de la vie. Il a l'argent pour. Mais quand on a été un grand champion comme lui, qu'on a eu des défis tous les trois jours ou toutes les semaines sur le terrain comme joueur, puis ensuite, quand on a été entraîneur à très haut niveau, ben on a du mal quand ça s'arrête. Donc, il veut continuer. Et on ne peut que se réjouir de cette
dernière chose,
volonté de sa
pour
part.
Clore le sujet, ça serait un gros coup aussi pour le Qatar, hein, qui organise la Coupe du Monde cette année. Il conserve Kylian Mbappé, qui est un des meilleurs joueurs du monde, pour ne pas dire le meilleur quand même.
Benzema.
Qui est un, Benzema. Oui, oui. Mais,
Benzema. Enfin, Benzema.
qui est un des meilleurs, soyons d'accord, et qui,
avec
en
Messi
plus,
et Neymar.
Obtiendrait Zinedine Zidane sur le banc.
Zidane qui avait fait campagne
pour la candidature du Qatar,
qui avait été l'ambassadeur de la candidature du Qatar. Bon. Donc, c'est déjà un lien qui existe depuis longtemps. Donc, ce n'est pas une liaison qui se crée tout d'un coup comme ça.
Donc, ça serait un bon coup. Vous êtes d'accord?
Absolument.
On passe à une autre star, Rémi. Celle-ci, elle n'est pas passée par le Real, elle est passée par le Barça. Mais tout. Il n'était que tout petit, le lion, quand il est passé par ça. Alors, un lion ne meurt jamais, dit l'adage, c'est ça, il dort. D'autant plus quand il s'agit d'un lion indomptable, c'est-à-dire un lion camerounais, et celui-ci a l'air d'être toujours indomptable. Samuel Eto'o, l'éternel numéro 9, même si la légende africaine est idole au-delà donc, des frontières du Cameroun. Il a récemment remporté la présidence de la fédération, la FECAFOOT. Alors on voit et on comprend que son cœur est resté dans le vestiaire, on va dire, où pendant la CAN, on le sait, n'est-ce pas Rémi, au Cameroun, il descendait, il aimait bien aller parler aux joueurs. Hier, alors en Tanzanie, à Dar es Salaam, mais face au Burundi, excusez-moi, eh bien, ont commencé les éliminatoires pour le Cameroun, qui n'avait pas joué le premier match puisque le Kenya est éliminé. Et ils ont joué, ils ont gagné 1-0 en vue de se rendre évidemment en Côte d'Ivoire pour la prochaine CAN. Si les Lions ont gagné 1-0, c'était le but de Karl Toko Ekambi contre donc cette équipe adverse. Eh bien, l'ancien capitaine des Lions n'a pas aimé, et c'est ce qu'il est allé dire aux joueurs.
Je ne suis pas content du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous. Vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté, parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et des très, très bons joueurs, les gars, croyez-moi. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars.
Alors, je crois que pour ceux qui n'ont pas l'image, même sans l'image, on reconnaît le ton et la voix de Samuel Eto'o. Rémi, est-ce que le coup de gueule de Samuel Eto'o est, selon vous, justifié? Est-ce qu'il a raison de prôner l'union, l'union qui fait la force?
Je crois que le coup de gueule de Samuel Eto'o peut plutôt créer la division, dans la mesure où, même aujourd'hui, au niveau de la tanière et au niveau de la réaction, on se rend quand même compte que le ministre des Sports félicite les Lions, Rigobert Song félicite les Lions,
oui,
alors que Samuel Eto'o critique les Lions. Là, on va avec des coups de clôt rampants, vibrants, pas à l'unisson, mais plutôt à la division. Et de surcroît, cet audio, devrait-on avoir justement cela au niveau du site de la Fédération camerounaise de football.
Ça a été enregistré dans le vestiaire et c'est sorti
et
sur
c'est
le
sorti
site de la Fédération de la FECAFOOT.
Et du coup,
tout le monde y a
j'ai
accès.
Dit,
mais qui maîtrise le site? Samuel Eto'o.
C'est Samuel Eto'o qui maîtrise ce site-là. Et c'est pour ça que je dis autant, j'ai défendu l'élection de Samuel Eto'o
sans
comme
y croire,
président.
Hein, on avait du mal à y
comme
croire.
Comme président de la Fédération camerounaise de football. Mais autant j'ai soutenu également la nomination de Rigobert Song, autant je ne suis pas d'accord.
Mais
avec...
est-ce qu'il y a des problèmes dans la tanière? Est-ce que lui, qui est évidemment des deux côtés, est-ce qu'il a senti quelque chose, lui, en tant qu'ancien joueur? C'est ça qui met en valeur.
Le problème, c'est que même s'il y a des problèmes dans la tanière, nous, on ne les voit pas. Et au-delà de ça, c'est pas le
c'est une
moment...
mise en garde.
C'est pas à cet instant-là qu'il le faut. Et je devrais dire qu'il y a toujours eu des problèmes dans la tanière.
Oui, bien.
Et lorsqu'on regarde...
On en parle beaucoup dans
surtout,
Radio Foot.
Parce que, vous savez, au-delà de ce qu'il fait, il déclare quand même que c'est ces joueurs de Lyon indomptables qui ne mouillent pas cette maillot, qu'aucune place n'est garantie et qu'ils ne sont pas assurés d'aller à la Coupe du Monde. Alors que, justement, je devrais quand même rappeler que lorsqu'on regarde les prestations des Lions, c'était avec Samuel Eto'o.
Non, mais il le dit, là. Il le dit.
C'était
il vient de le dire.
Et c'est pour ça que j'ai dit encore une fois de plus, avant que Xavier Barré ne prenne la parole, c'est que, justement, parce qu'il y avait des sorties de cette envergure-là à son époque, que, justement, on s'est retrouvés dans des problèmes. Moi, je me souviens d'un match. Je vais vous dire. Nous sommes le 14 octobre 2012 et le Cameroun doit aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, nous jouons contre une pauvre équipe du Cap-Vert. Excusez-moi les Cap-Verdiens, mais à cette époque, on ne connaissait pas cette équipe-là. Mais cette équipe du Cap-Vert est venue gaillardement imposer aux Lions Indomptables.
Et elle est allée loin cette année-là.
Le Cameroun n'était pas allé pour la première fois à la CAN, deux fois successivement, alors que dans cette équipe-là, il y avait Samuel Eto'o qui avait récupéré le brassard de capitaine à Rigobert Song. Il y avait Idrissou. Il y avait bien évidemment des joueurs tels que Achille et Mana. Il y avait ceci et cela. Donc c'est pour ça que j'ai dit que lorsque j'ai vu cette déclaration,
vous avez l'impression qu'il refait les mêmes erreurs.
On est en train de retomber dans les mêmes erreurs.
Okay.
Ils ont quand même gagné au Burundi, hein.
Mais oui.
Qui était à la CAN en 2019.
Ils ont
éliminatoire de la CAN, aller gagner à l'extérieur, ça n'est jamais facile.
C'est dur de jouer à Dar es Salaam. Et en plus, je me permets d'ajouter le commentaire de Patrick Juillard qui dit, moi j'ai trouvé qu'effectivement ils ont manqué d'efficacité, mais j'ai trouvé que c'était une plutôt bonne présentation, disons, prestation des Lions Indomptables. Ils l'ont gagné ce match, ils ont les trois points.
Ils ont les trois points. Dans un groupe où il n'y aura que quatre matchs, et non pas six matchs, hein, avec le Kenya qui a été exclu. Mais voilà, ils l'ont gagné.
Je trouve que je commentais ce match et donc on voyait, le réalisateur mettait des plans de coupe sur Samuel Eto'o qu'on voyait absolument désespéré de toutes les occasions manquées par les Lions Indomptables parce qu'ils ont quand même frappé 18 fois au but contre le Burundi, donc sur terrain neutre, parce que le match était délocalisé en Tanzanie. 4 seulement cadrés, et donc une petite victoire 1-0. Donc on comprend la déception de Samuel Eto'o quand on a vu cette domination, cette archi-domination des Camerounais. 62% de possession de balle, même si Rémy Ngono estime que la possession, ça rime pas à grand-chose. C'est vrai qu'on s'attendait à une rentrée en matière plus flamboyante de la part du Cameroun, en tout cas au niveau du résultat final. Et le fait est qu'actuellement, je pense que le message qu'envoie Samuel Eto'o, il est clair quant à la politique de la fédération, la FECAFOOT, qui est en train d'essayer de récupérer des jeunes joueurs souvent nés en Europe. On pense particulièrement à Christopher Wu, qui est du Racing Club de Lens, qui vient de débuter sous le maillot des Lions et qui a connu sa première sélection en rentrant en fin de match. Et donc, ces joueurs-là qui ne sont pas nés au Cameroun, ils n'ont pas toujours le même état d'esprit. Et on l'a vu dans certaines sélections africaines où ça frotte entre ce qu'on appelle les binationaux et les gamins qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas. Et donc, je pense qu'il veut marquer son empreinte en disant, voilà, maintenant, vous venez en sélection du Cameroun, c'est vraiment pour mouiller le maillot et pas seulement pour venir en vacances.
Mais alors,
d'ailleurs,
Xavier...
certains joueurs nés en France qui ont joué pour le Cameroun ont été écartés de la liste finale parce qu'ils avaient été... Il y a eu Moukoudi, Ebossé, Baoken qui avaient été convoqués et qui ont finalement été écartés. Donc il y a cette volonté, je pense, de la part de Samuel Eto'o de faire en sorte que ces joueurs soient, quand ils sont en sélection, ils soient à 100% derrière l'objectif
la mode...
et pas seulement venir voir la famille.
Et c'est à la mode Didier Deschamps, c'est-à-dire on crée un groupe et on ne prend pas forcément les meilleurs.
Donc,
c'est ce qu'on se disait, Frédéric.
Oui, bah quand on regarde les grandes victoires dans les tournois, que ce soit Coupe du Monde, CAN, Euro, effectivement, il faut savoir parfois se passer de certains joueurs qui avaient du mal à s'intégrer, même s'ils ont un talent
immense.
C'est
la menace.
Didier Deschamps l'a suffisamment montré ces 10 dernières années. Mais pour revenir à ce discours de Samuel Eto'o, la causerie, elle est superbe. Hein, et d'ailleurs, elle est saluée par les auditeurs. Ici à Kassaré, il est à Bamako, il nous dit c'est génial, continue Eto'o, Léna Romaric. Mais on a l'impression que c'est un discours de coach. La causerie, c'est celle que va tenir un coach avant de lâcher les Lions.
On sait très bien
que
si c'est Rigobert qui est sélectionneur, c'est parce que c'est Samuel Eto'o qui dirige tout.
Alors justement, Rémy, est-ce qu'on peut parler d'hyper-président ? Parce que c'est vrai que pendant le Cameroun, pendant la CAN, il était très présent auprès de l'équipe. Mais là, c'était au Cameroun, il venait juste d'être élu et on attendait ça de lui. Mais est-ce que ça ne peut pas faire de l'ombre ? Même si Rigobert Song est son ami, même si c'est lui qui l'a nommé.
La loi, c'est la loi. La Fédération camerounaise de football a des statuts.
Oui, mais c'est pas Rigobert Song qui ne va pas les réclamer contre les...
Attendez, Annie, vous me posez une question et vous répondez. J'ai dit bien, ça a des statuts. Et l'article 49, alinéa B, dit que ce soit la sélection, des joueurs ou les entraînements et tout, la causerie, c'est l'entraîneur, c'est le sélectionneur. Moi, je vais vous rappeler une autre chose que Samuel Eto'o n'aurait jamais toléré. Parce que je vous dis, par exemple, que lors de certaines prestations, par exemple, Iya Mohamed, qui était président de la fédération, et Roger Milla, lorsque, par exemple, que ce soit contre l'Égypte, où le Cameroun manque la Coupe du Monde, que ce soit contre la Côte d'Ivoire, où Samuel Eto'o, d'ailleurs, rate le pénalty, que ce soit contre la RDC, par exemple, en 2011, où nous sommes à Garoua, jamais Samuel Eto'o n'avait accepté qu'un président vienne parler dans les vestiaires. Donc, aujourd'hui, ce qu'il a condamné hier, il le fait aujourd'hui. Et vous voulez que moi, journaliste, moi qui connais et qui ai refusé, par exemple, les intrusions du ministre des Sports dans les vestiaires, que j'accepte actuellement que Samuel Eto'o, les séances d'entraînement, il est là. On me dit que c'est très bon parce qu'il est un très bon entraîneur et un très bon coach. Je vais juste rappeler une chose, c'est que avec ces méthodes, et justement, vous savez qu'en 2010, il y a eu des frottements entre Samuel Eto'o et Rigobert Song, où justement, il y avait déjà un problème de capitana. Résultat des courses, le Cameroun est quitté de cette compétition avec 0 point, dernier du groupe, et avec 5 buts encaissés, donc 2 seulement encaissés. À partir de cet instant, j'ai dit, évitons de piétiner justement les autres, là où nous avons voulu garder notre rôle, notre pouvoir.
Mais Xavier, peut-être quand même, Samuel Eto'o, il a quand même un vécu. C'est l'ancien numéro 9, c'est l'ancien capitaine.
C'est ce que j'allais répondre à Rémi Menon.
Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ce n'est pas Rigobert Song qui va aller prendre l'article de la FECAFOOT contre son président.
Ça dépend de quel président.
Qui est un ancien camarade.
Et voilà. Moi, je me souviens que Michel Platini, à l'époque, avait poussé pour qu'il y ait un maximum d'anciens footballeurs qui soient présidents des fédérations. Quand vous avez Boniek en Pologne, Boniek qui a été un joueur immense, forcément qu'il va donner son avis sur le choix du sélectionneur, et parfois même en discutant avec le sélectionneur, il va lui dire: Penaise, moi je jouerai comme ça ou je jouerai comme ça. Évidemment, la seule différence, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de réseaux sociaux et qu'on ne le mettait pas sur les réseaux sociaux.
Là, c'est lui qui se met sur le réseau.
Après, il y a des choix de communication qu'on peut discuter, mais que le président de la fédération soit un ancien footballeur de très haut niveau, qu'il ait des compétences, une autorité naturelle pour obtenir justement qu'il n'y ait plus ces histoires de primes qui polluent la préparation de la sélection camerounaise, comme ça a été le cas à chaque Coupe du Monde depuis qu'il participe pratiquement, eh bien, c'est plutôt une bonne chose. Donc après,
Samuel Eto'o vienne devant Didier Deschamps. Nous sommes en France. Attends.
Didier Deschamps, c'est comme Samuel Eto'o.
Et en même temps, comme vous êtes en train de dire là,
vous savez, Annie, moi j'ai vu après la victoire de la Coupe de France, il y va.
On va écouter les réactions
de tous les présidents de fédération. Ils vont après, ils font pas forcément la causerie et ils se mettent pas forcément sur les réseaux sociaux.
La seule chose dont on se souvient, c'est qu'après la qualification en Algérie, Samuel Eto'o est allé dire aux joueurs, et ça on s'en souvient, la causerie dans le vestiaire, c'est: on ira en demi-finale de la Coupe du Monde.
Oui, bon, hein, après.
Donc,
après
il a mis la barre très haut. Frédéric, des commentaires.
Ça pleut comme début de Samuel Eto'o là, sur le Facebook Live de l'émission. Abdoulaye Diallo, Eto'o prend la place de Song. Eriksson, le Cameroun, rien à dire. Eto'o continue. Et Franck Mouyendi, et il est presque triste de nous l'avouer, là, demi-mot: pour la première fois, je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Rémi.
Ah, bah voilà.
Mince. Vous savez, pour la première fois, je ne suis pas d'accord avec Samuel Eto'o. Parce que ce que nous faisons en Afrique, et je vais vous dire cela, c'est que l'hyper-présidence fait de telle sorte qu'on ne délègue pas. C'est comme, par exemple, dans ce Cameroun-là, on vous dit que tant que le président de la République n'a pas parlé, le ministre n'agit pas, le directeur n'agit pas. Moi, j'ai dit aujourd'hui, chacun a sa place et les bœufs seront mieux gardés. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'un président va tourner dans les vestiaires que les joueurs vont jouer. Le Cameroun, avec cette méthode-là, je vais vous rappeler, la seule fois que le Cameroun a encore eu une victoire à la Coupe du Monde, malgré toutes ces méthodes, c'était en 2002 contre l'Arabie Saoudite. Et depuis, plus rien.
Okay,
donc
Rémi,
pour moi, il y a un proverbe africain qui dit: ce n'est pas en allant frapper le bœuf qu'il va donner du lait.
Ah oui, surtout un bœuf. Je suis d'accord. Allez, on continue, on va parler de quelque chose de révolutionnaire dans le championnat de France.
Ah voilà, je crois que les changements vont intervenir et c'est le numéro 99 qui sort. Et le 96 qui rentre?
Ah, non, le 69, Pierre.
Ah, vous croyez, David?
Serais-je tombé dans le panneau avec cette nouvelle numérotation?
Vous voyez, quand on prépare l'émission, on s'amuse bien. Changement donc dans la Ligue 1, dans le championnat de France et remplacement, peut-on dire. Voici l'entrée sur le terrain de foot des numéros de 1 à 99. Jusqu'à présent, l'article 576 du règlement de la LFP interdisait les numéros fantaisistes et les limitait au numéro 30. Ça allait donc de 1 à 30. Ainsi, Lionel Messi... Hein, on s'en souvient, quand il est arrivé au PSG, il a pu choisir le numéro 30. Aujourd'hui, cette interdiction est levée. Les joueurs de football pourront choisir entre 1 et 99. Alors, il y a d'autres championnats européens qui le faisaient déjà. On a ça en Angleterre, on a ça en Italie, on a ça en Turquie. Est-ce qu'on a cédé, finalement, parce que c'est la mode américaine, dans les championnats de basket, notamment la NBA, oui. On peut choisir son numéro. Xavier, est-ce que finalement, on fait ce qu'on veut ? Désormais.
Oui, moi je trouve que.
Est-ce que alors, c'est dommage?
On pouvait aller jusqu'au 33, puisque le 33.
Est-ce que c'est symbolique?
Oui, je vois pas grand-chose de scandaleux dans ce thème-là. J'avais fait un sujet d'ailleurs dans France Foot à l'époque sur tous ces numéros fantaisistes, à une époque où on continuait à numéroter jusqu'à 12 ou 15 maximum. Et ça existait déjà, notamment, vous l'avez dit, Annie, aux États-Unis, où il y avait notamment un numéro qui était très particulier, c'était le double zéro. Et certains joueurs...
Alors, bon, alors là, il faudra
sports,
commencer par le 1.
Se battaient pour
et
le
les gardiens zéro. Resteront avec le 1. Voilà. Personne
donc,
d'autre que des gardiens.
Il y a d'autres championnats, notamment en Coupe d'Europe, où on peut aller plus loin que le 25 ou le 30. Et donc, je pense que d'un point de vue marketing, c'est important qu'un joueur puisse avoir le même numéro dans toutes les compétitions. On le voit en France. Moi qui commente la Coupe de France, par exemple, pour Eurosport, c'est souvent très perturbant quand on sait, par exemple, que Messi joue avec le 30. Et puis, en fait, quand il a joué avec le PSG en Coupe de France, il joue avec le numéro 10. Alors, c'était amusant pour les photographes parce que du coup, il avait le numéro 10 en Coupe de France.
Et pourquoi on le change entre deux
compétitions ? parce qu'en Coupe de France, vous numérotez de 1 à 11 vos titulaires. Et vous mettez vos remplaçants jusqu'au 15 ou 16 ou 18.
Ce qui se faisait auparavant.
Ce qui se faisait avant. Et donc, comme maintenant, les joueurs ont des numéros à l'année en championnat, ça permet qu'ils aient des numéros éventuellement marketing. Par exemple, rappelez-vous Nicolas Anelka. Nicolas Anelka, il voulait le 78, mais ça n'existait pas. Mais il pouvait avoir le 39. Il avait divisé 78 département des Yvelines par 30, deux. C'est comme ça qu'il avait mis le 39. Voilà. Donc, après, il y a des joueurs
France,
qui... Après, ils jouent avec ce numéro un peu partout. Et donc, il y a des joueurs qui sont attachés à un numéro parce que c'est celui de leur commune de naissance, de leur département, etc. Ça permet effectivement de les identifier. Pourquoi pas ? Moi, je ne vois pas quelque chose de révolutionnaire dans cette réforme.
Mais Frédéric, on parle souvent des trophées individuels dans le football. Et bien là, on va vers la numérotation individuelle, l'individualisation. C'est-à-dire qu'avant, on sait où est le poste du numéro 6, où est le poste du numéro 9 ou du numéro 7. Là, on se demandera où joue le 38.
Oui, il l'a rappelé, il y a du marketing, Xavier, derrière tout ça. Moi, je suis un peu nostalgique. Alors, il y a peut-être une fracture générationnelle, mais c'est vrai que le gardien, c'est le 1, l'arrière-droit, c'est le 2, les deux défenseurs centraux, 4-5, arrière-gauche, le 3, vous avez les milieux aussi. Suite. Enfin, on a grandi, en tout cas, dans les années 80, 90, 2000, avec ces numéros-là. Quand vous étiez dans la cour de récréation, c'était « Non, je vais jouer 10, c'est moi, je joue 10 » ou les grands buteurs, ils avaient le numéro 9. On parlait de Samuel Eto'o, Jean-Pierre Papin, tous ceux qui ont marqué l'histoire. C'est lié aussi au numéro qu'ils avaient dans le dos. Moi, je trouve que ça fait un peu fantaisiste.
Parfois, maintenant, quelque chose d'assez amusant, d'ailleurs, c'est que parfois, les clubs, justement, pour des raisons marketing, demandent, ça a été le cas pour Messi à Barcelone notamment, je crois qu'il avait le 18, et donc, ils lui ont demandé de prendre le 10 parce que c'était plus porteur comme numéro, ouais, ça se vendait mieux au niveau des maillots. Donc, parfois, il y a justement le phénomène inverse. Un joueur débute avec un numéro, entre guillemets, fétiche parce qu'il ne peut pas prendre quand il est petit, et puis après, il change absolument.
Rémi, on voit que, par exemple, au Brésil, qui a quand même 5 Coupes du Monde, c'est la seule nation à en avoir 5. Ils sont restés sur la numérotation historique, je dirais, le 1, le 2, le 10. On le donne par rapport au poste. Est-ce que vous trouvez ça bien qu'on change dans le championnat, dans plusieurs championnats, on va dire ?
Non, je ne trouve pas du tout bien qu'on change comme ça, parce que même quand on commente, on dit à ceux qui nous écoutent, ils jouent en 9,5. Il joue en 10, il joue en 8, il est en 6,
il est meilleur.
Alors là, subitement, on vous dit que le type qui joue en 6, là, en réalité, il est 30. Alors là, c'est une catastrophe. Et moi, de toutes les façons, si ça va comme ça, là, mais écoutez, mettez l'âge de naissance, là, vous mettez 1968, 1912, 1906 et cela. Après, on va arriver à 3000, 50 000 et 60 000 et tout et tout. Non, là,
c'est pour ça que Vicente Lizarazu...
pour moi, c'est une connerie passive.
Vicente Lizarazu, lorsqu'il est retourné au Bayern de Munich, vu que le numéro 3 d'arrière-gauche avait été pris entre-temps par un autre joueur, je crois qu'il a pris le 69,
oui,
qui était son
année
de naissance.
Voilà, donc, bon, moi, je, franchement... Son tour de taille, enfin, bon, je sais plus.
Non, mais il y a un élément qui va à contre-temps de ce que dit d'ailleurs Rémy Ngono.
Et vous savez, il y a une guerre chez nous qu'on appelle, par exemple,
les joueurs quand ils...
33,
attends, je finis.
Finalement, moi, je vais mettre ce 33 dans les brasseries, vont dire, allez, mettez le numéro 33, c'est une publicité clandestine. Les gens auront 33 dans chaque équipe.
Si tu suivais un peu la Ligue 1, la réglementation de la Ligue 1, le numéro 33, justement, il est réservé pour les jeunes joueurs qui débutent, qui ne sont pas encore dans la numérotation officielle. C'est pour ça qu'un joueur qui fait son premier match en Ligue 1 en France, il a souvent le numéro 33. Après, il va se voir attribuer un autre numéro. Mais là, le 33, c'était réservé pour les joueurs débutants. Et donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, Rémy Ngono disait « Oui, on ne sait plus qui est le 2, qui est le machin. » Mais aujourd'hui, sur toute la saison, quand il y a les séquences vidéo, justement, les entraîneurs, ils préparent en disant bah, « Fais attention à tel arrière-droit, c'est le numéro 30. » Parfois, les joueurs se souviennent pas. Et aujourd'hui, le numéro 30, il l'a toute la saison. Donc, c'est même plus facile pour préparer les matchs pour les techniciens.
Ah, tu as bien dit que Messi change selon les compétitions de maillot.
Parce qu'en France...
maintenant, tu dis que l'entraîneur a dit « Surveille le numéro 30 ». Finalement, Messi s'est présenté avec le numéro 10.
On verra si la Fédération française de football va autoriser les clubs professionnels à garder les numéros pour la Coupe de France. Mais là, c'est un problème lié à la disponibilité des maillots pour les clubs amateurs. Voilà.
Oui, et surtout, on verra si dès le début de saison, ça sera un choix dans les clubs et des joueurs ou si ça va s'étendre sur les prochaines années. En tout cas, pour l'instant, la LFP a changé son règlement. On continue et on passe à ce que vous attendez, les cartons.
Carton jaune.
Il y a un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Des cartons vidéo et pas seulement audio, hein, je le dis à tous ceux qui nous en envoient, il n'y a pas que, on ne diffuse le vendredi que les cartons vidéo. Et vous aurez remarqué la semaine dernière que le jeune Sénégalais de Dakar, Khalifa 6, eh bien, il avait compris qu'il fallait qu'il se filme pour nous envoyer son carton sur Benzema. À vous la parole.
Salut, je suis Blaise Voukou, depuis Porte Nouveau. Je donne un carton rouge aux écureuils du Bénin pour cette seconde défaite d'affilée dans cette qualification à la CAN 2023.
Bonjour, bonjour. Moi, c'est Mitterrand du Cameroun. Je donne un carton spécial à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Malgré l'âge avancé, ne cesse de nous satisfaire avec la prouesse et de faire de bonnes choses. Je ne sais pas si les jeunes qui viennent atteindront leur âge, mais je leur donne vraiment double carton vert.
Salut, Café du Sport, c'est Jovem Moël pour le Congo-Brazzaville. Je donne un carton vert au Diable Rouge du Congo-Brazzaville pour leur victoire face à la Gambie. C'est une victoire qu'on attend il y a longtemps. J'espère qu'on va continuer comme ça dans cette lancée.
Ici, c'est Aoudia depuis Nouakchott. Je vais donner un carton vert à Casa Sport des Iguinchors pour leur sacré champion du Sénégal 2021-2022. Bravo les Casacés. J'espère qu'ils représenteront bien le Sénégal aussi sur le plan africain.
Salut Rémy Ngono, salut Radio Foot. Moi, c'est Youssouf Souley depuis Niamey, Niger. Et je donne un carton vert à l'équipe nationale du Niger pour leur match nul 1 but partout face à l'Ouganda. Surtout avec un très beau but de Sabo. Chapeau Sabo, bon courage et bonne continuité Radio Foot. Ciao, ciao.
Mon nom est Aboubakar Youssouf de Pimtanga du Comores. Mon carton est vert pour l'ancien sélectionneur de l'équipe de Comores, Amir Abdou. Actuellement sélectionneur de l'équipe de Mauritanie. Ce que tu es en train de faire avec la Mauritanie, bravo Amir Abdou. J'aimerais que le Comores se qualifie à la CAN 2023 et se trouve dans le même groupe de poules que la Mauritanie des retrouvailles. Merci beaucoup.
Bonjour Radio Foot. Bonne émission à vous. Je m'appelle Glody depuis Kinshasa. J'adresse mon carton rouge à nos léopards qui ont allé perdre là-bas au Soudan et ils ont perdu ici au Stade des Martyrs. C'est honteux pour une grande nation comme notre pays et une fédération en désordre comme le nôtre. Carton rouge.
C'est Guess Oshua depuis le Congo-Brazzaville, plus précisément Mayanga Lago Bleu. Je donne mon carton vert à l'international Diable Rouge du Congo, Antoine Makumbu, qui nous a régalé hier au Stade Alphonse Massamba Déba avec un superbe but face à la Gambie.
C'est Mamadi Doumbouya depuis Conakry.
Je donne un carton vert à notre Zizou national guinéen, Naby Keïta, l'homme qui a réussi à sauver tout un peuple à la dernière minute du match Guinée-Malawi. On est vraiment fiers de toi. Félicitations à toute l'équipe. Merci au plateau de Radio Foot International. À la saison prochaine. Merci.
Bonjour Radio Foot International. Je suis Honoré Dem, Togolais vivant en Italie. Je donne un carton vert à la casette qui a décidé de revenir à Lyon. Ce, malgré l'Olympique Lyonnais ne soit qualifié pour aucune compétition européenne. Comme lui-même il l'a dit, c'est un choix du cœur. Chapeau à lui, carton vert à lui et bonne chance pour la suite.
Je m'appelle Amène Djakpa au Togo. Mon carton est rouge et adressé aux éperviers du Togo pour leurs deux matchs catastrophiques qu'ils ont livrés. C'est vraiment honteux pour le football togolais. Je ne sais pas quel type d'épervier que nous sommes. Nous ne parvenons même pas à attraper des poussées. C'est vraiment honteux. Merci.
Oui, alors là, vraiment, la chute est magnifique. Bravo. Je comprends que David Finzel n'ait pas laissé passer ce carton et qu'il l'ait sélectionné. À qui le tour ? Allez, Rémi.
Alors, Lord Guelph Ngono de ma page Facebook Rémi Ngono donne un carton rouge au léopard, léopard de la RDC.
Ils sont comme les éperviers.
C'est incroyable. Non seulement ils ont manqué la CAN au Cameroun en chantant Fimbu, Fimbu, Fimbu qui vont battre tout le monde. Maintenant, ils se font tabasser Fimbu, Fimbu, Fimbu. Mais à domicile, ils se font tabasser. Au Soudan, ils se font encore décoiffer, déchausser, humilier. Mais c'est terrible. Et à la fin des comptes, comme d'habitude, ils changent l'entraîneur, le sélectionneur. Maintenant, ils disent que non, coupeur, on va te couper et découper. C'est toi le problème. Donc, et finalement, on l'a découpé. C'est pour ça que je dis, quel que soit l'entraîneur, quel que soit le sélectionneur qu'on va prendre, tant qu'il y a le désordre au niveau de la Fédération congolaise de football, on aboutira au même résultat. Car un proverbe africain dit, n'accuse pas le coiffeur pour un diable qui n'a pas de cheveux.
Je me demandais quelle allait être la chute.
Ouais,
Xavier, à vous.
Oui, bah moi aussi, la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, les éliminatoires. Je suis d'accord sur l'analyse du jeune Blaise au début de notre séquence, qui donne un carton rouge aux écureuils du Bénin. Mais moi, je vais donner un carton rouge aux supporters qui ont caillassé le bus et qui, on comprend la frustration après cette défaite à domicile face au Mozambique. Et moi, j'ai défendu les Béninois lorsqu'ils n'ont pas été aidés par l'arbitrage lors du match de Coupe du Monde contre la République démocratique du Congo, contre les Léopards. Mais là, franchement, c'est pas en se manifestant de cette façon qu'ils vont soutenir leur équipe nationale et l'aider à se renvoyer. Alors, reprenez-vous tous rapidement, s'il vous plaît.
Frédéric.
Un carton vert, mais carton bleu et jaune pour l'Ukraine, qui certes n'ira pas à la Coupe du Monde, ça remonte à dimanche dernier, le barrage qualificatif pour le Mondial au Qatar, perdu à Cardiff face au Pays de Galles, 1-0. Les Ukrainiens, sur ce qu'ils nous ont montré ce soir-là, auraient très bien pu l'emporter et se qualifier. Trois jours plus tard, il y a la Ligue des Nations, ils sont allés gagner en Irlande, porte-drapeau de tout le peuple ukrainien. Le proverbe « vivre Radio Foot ».
Et bravo à eux. Le carton de Radio Foot International est vert et il va à un jeune joueur de 11 ans. Il s'appelle en plus Paul Le Pelé. Ça ne s'écrit pas comme vous l'imaginez, mais en tout cas, évidemment, il y a une résonance. Il est du club normand de Coutances. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a réalisé 3336 jongles en une trentaine de minutes. Il a battu un record précédent. Le record précédent était de 2300 jongles. Vous en faites combien, Rémi ?
2,5. Surtout quand j'ai des abus.
Alors, selon ses parents, il est très appliqué. Il s'entraîne 10 heures par semaine entre son club et tout seul. Ouais. On le verra peut-être sur les terrains un jour. En tout cas, il a 11 ans. Souvenez-vous de son nom, mais son nom est facile à retenir. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé aujourd'hui à cette émission. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine. Bon week-end.